des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
Vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, chante Marie Laforêt. Père Marc de Biasi, bonjour.
Bonjour.
C'est pourtant ce qui arrive à Félicité, le personnage principal d'Un cœur simple, de Flaubert.
Oui, elle est à la recherche de tendresse toute sa vie, en effet. Oui.
C'est une manière d'ailleurs de parler du texte lui-même. C'est une personne absolument seule qui ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir donner son amour, sa tendresse à quiconque, quoi que ce soit même, et qui ne reçoit rien en échange.
Alors elle reçoit tout de même, puisque finalement elle a un destin qui lui paraîtra plein. On va le voir.
En tout cas, Pierre-Marc de Biasi, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez présenté les trois contes de Flaubert en Garnier Flammarion.
On peut dire... Au livre de poche.
Au livre de poche. Mais c'est un Garnier Flammarion,
ah,
que
oui,
j'ai sous
vrai.
Les yeux.
Ouais,
bon,
oui.
Bah alors voilà, double édition, très bien, vous avez le choix, chers auditeurs. Avec ce conte, on peut dire que pour Flaubert, l'enjeu était de faire une littérature du cœur, justement.
Je crois que c'était explicitement de répondre à une demande qui était celle de George Sand, c'est-à-dire une littérature du cœur. Lui qui était réputé impersonnel et développant une littérature critique, une littérature plutôt caustique et qui sortait de plusieurs grandes expériences de succès littéraire, quand même Madame Bovary, Salambo et La Tentation de Saint-Antoine. Et l'éducation sentimentale, ça faisait une configuration très 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 intellectuelle, roman politique, roman sur l'amour, etc. Ici, on a une tentative autre, et vraiment sous l'influence de George Sand.
On parlait de George Sand lundi dernier, puisqu'on a fait une émission sur le cœur chez Alfred de Musset. Elle revient ici parce que George Sand a aussi été l'amante de Gustave Flaubert.
Oui, l'amante, je sais pas, mais c'était en tout cas une relation. Très importante pour Flaubert. La différence d'âge faisait, je crois quand même, qu'elle était plutôt dans une relation un peu maternelle avec lui. Hein. Mais ça comptait énormément. C'était une sorte de, comment dire, pour Flaubert, une sorte d'orientation profonde. Il était très critique par rapport à l'écriture de Sand. C'était pas du tout ce qu'il jugeait le plus supérieur, le plus intéressant dans l'écriture romantique. Il disait même d'elle qu'elle écrivait, elle avait la chance d'écrire comme un robinet qui pisse, donc c'est pas très très gentil. Mais il avait en revanche une admiration, un amour, une tendresse totale pour la personne, pour ce qu'elle a pu représenter aussi dans le milieu intellectuel et politique français.
Et j'en parle parce qu'il y a un lien direct avec le texte qui nous occupe aujourd'hui, Un cœur simple, parce qu'il écrit à George Sand, donc le 29 mai 1876, « Vous verrez, par mon histoire d'un cœur simple, où vous reconnaîtrez votre influence immédiate, que je ne suis pas si entêté que vous le croyez. Je crois que la tendance morale, ou plutôt le dessous humain de cette petite œuvre, vous sera agréable. » Et là, il fait référence à un échange qu'il avait eu avec George Sand quelques mois plus tôt, où Sand lui disait « Mais que ferons-nous ? Toi, à coup sûr, tu vas faire de la désolation et moi de la consolation. » Et Flaubert ouais. veut lui donner tort. « Non, je ne fais pas que de la désolation. » Et c'est ainsi qu'il écrit Un cœur simple.
Oui, c'est cruel, parce qu'elle va mourir juste avant qu'elle ne pouvoir lire le texte. Il l'a terminé et puis il n'a pas eu le temps de lui lire même le texte. C'est quelque chose de symbolique dans cet échange et aussi ce rendez-vous perdu.
Alors on va le lire ensemble, Pierre-Marc de Biasi, Un cœur simple. Ça fait une cinquantaine de pages. C'est un texte qui est bouleversant de... Alors quel est le terme justement, peut-être de simplicité, mais encore faut-il définir ce que cette simplicité du cœur dont il est question. On va entendre Gustave Flaubert lui-même qui présente l'histoire d'un cœur simple, puisque de toute façon on va en parler, c'est dans une lettre à Madame Roger des Genettes qui date du 19 juin 1876. Écoutez.
Passait, 19 juin 1876, à Madame Roger des Genettes. Mon compte avance. Je l'aurai fini probablement dans 2 mois. L'histoire d'un cœur simple. Est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais pas mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse, un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet. Quand le perroquet est mort, elle le fait empailler. Et mourant à son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Ce n'est nullement ironique, comme vous le supposez, mais au contraire très sérieux et très triste. Je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles, en étant une moi-même, hélas. Oui, l'autre samedi, à l'enterrement de George Sand, j'ai éclaté en sanglots en embrassant la petite Aurore, puis en voyant le cercueil de ma vieille amie, Gustave Flaubert.
C'est dit dans cette lettre, Pierre-Marc de Biasi. On a l'histoire du début à la fin, ouais. En quelques lignes. On retrouve la tendresse chantée par Marie Laforêt. C'est le personnage principal, Félicité, est tendre comme du pain frais. Quelle est cette simplicité de Félicité ? Cœur simple, c'est quoi cette simplicité ?
Ben, je crois que c'est pour Flaubert ce qu'il... On dit souvent que Flaubert est un type de droite de l'élite parisienne. D'abord, il n'est pas du tout de l'élite parisienne. Il est autant normand que parisien. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, dans son travail intellectuel et artistique, a cherché à comprendre ce qu'on appelait à l'époque le peuple. Voilà. Et je crois que Félicité, c'est une image présente, puisque dans les trois contes, c'est au fond le moment de la sainteté contemporaine, hein, par rapport à Hérodias, qui était la sainteté évangélique, et Saint Julien, la sainteté médiévale. Félicité, c'est une sainteté contemporaine, version populaire, quoi. Qu'est-ce que c'est que le peuple aujourd'hui? Et la souffrance de Félicité, sa générosité, sa bêtise aussi, sont ce que Flaubert va essayer d'explorer dans ce conte-là, au ras des mots, dans une langue qui est probablement ce qu'on fera de plus beau en français du 19e siècle.
Plus beau encore, vous trouvez, que Madame Bovary, que l'éducation sentimentale?
Je crois, si vous voulez, les trois contes, c'est une sorte de testament littéraire. Vous savez, c'est finalement le dernier texte publié du vivant de Flaubert. Hein. Après, il y aura Bouvard Pécuchet, mais il n'aura pas le temps de l'achever. C'est un testament littéraire, c'est-à-dire que c'est un moment où l'écriture de Flaubert est arrivée à un point de maturité, de perfection totale, absolue. Quoi. Ça veut dire que chaque mot est pesé, que chaque adjectif, chaque parole est dans une stratégie du rapport de la partie au tout, pratiquement fractale, dans ces trois contes. Sans parler des relations qu'il y a entre chacun des contes. Donc c'est véritablement une œuvre cryptée, comme peuvent l'être des œuvres médiévales, par exemple. Il y a un niveau de qualité d'expression qui... Alors, qui est très difficile à voir directement, parce que ça se traduit en fait par la simplicité même, c'est-à-dire la clarté, la translucidité, la transparence de l'expression. Mais touchant l'histoire de Félicité, c'est une transparence qui va essayer de nous mener droit au cœur de ce cœur qui est presque impensable, puisque fait d'ignorance, fait presque de bestialité, hein, mais en même temps... totalement offert, quoi. Et offert, au fond, par le texte, comme quelque chose qui est peut-être pas un modèle, mais qui est admirable. Et donc c'est un texte profondément problématique. Hein. C'est au lecteur de se faire sa conviction sur ce qu'est l'histoire de Félicité. C'est une histoire émouvante. Hein. Il nous dit Flaubert
dit que son but est « je veux apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles en étant une moi-même ». C'est ça qui est là, pour le coup, vous dites c'est problématique. Oui, parce qu'on a ce personnage qui doit être le plus simple possible, le plus proche du peuple possible, c'est ce que vous dites. Donc c'est plutôt une dimension, disons, politique. Oui. Et en même temps, le but, c'est de faire pleurer. Quel étrange recours pour attirer les larmes.
Ben oui, mais c'est une réflexion aussi sur ce qu'est, d'une certaine façon, l'état du pays à l'époque où Flaubert écrit. L'état du pays, c'est pas le Second Empire parisien, c'est cette France profonde dont Félicité est un exemple, héroïque. Vous savez, c'est une vieille obsession chez Flaubert. Il y a pensé depuis Madame Bovary. dans Madame Bovary, il y a un personnage qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que va être Félicité. C'est Catherine Leroux. Catherine Leroux, à l'époque des dans l'histoire de Madame Bovary, au moment des Comices agricoles, qui est cette vieille dame complètement écrasée par un demi-siècle de travail, usée, cette esclave au fond, à qui le sous-préfet va remettre une médaille d'argent en récompense de ses bons services. Eh bien, la description qui est faite de Catherine Leroux, c'est quelque chose comme l'anticipation même de la conception
De Félicité. Alors, Félicité. On va y venir, mais peut-être là, on connaît pas encore assez Félicité, donc il faut quand même qu'on la présente un peu. On va entendre déjà le début du texte, les premières lignes, l'incipit, comme on dit, interprété par le comédien Jean Topard. C'était Anne Brissier qui a lu le texte précédent. Écoutez, comme vous le disiez, vous dites la langue d'ici de Flaubert atteint sa perfection. Le rythme, chaque mot tombe au bon moment, au bon endroit, et dans cette simplicité absolue, on y entend tout.
Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle se levait dès l'aube, pour ne pas manquer la messe, et travaillait jusqu'au soir sans interruption. Puis, le dîner étant fini, la vaisselle en ordre et la porte bien close, elle enfouissait la bûche sous les cendres et s'endormait devant l'âtre, son rosaire à la main. Personne dans les marchandages ne montrait plus d'entêtement. Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le désespoir des autres servantes. Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de 12 livres, cuit exprès pour elle, et qui durait 20 jours.
Pierre-Marc de Biasi, nous avons ici le portrait de Félicité quasiment complet. On y reviendra après dans le texte, il y aura d'autres informations, mais là, le personnage, le tableau est brossé. Nous savons tout ce qu'il faut savoir de Félicité pour ensuite la suivre dans ses amours impossibles.
Oui, et il y manque peut-être dans le texte de présentation de Félicité cette expression qui vient vite et qui en fait une femme comme une femme en bois fonctionnant d'une manière automatique. Elle a un côté un peu automatique. Elle est comme programmée, comme à peine humaine, quoi. Et c'est ce personnage qu'on va suivre depuis les enfances jusqu'à la mort. En essayant de lui donner consistance dans un monde qui l'a mis, d'un bout à l'autre. Quoi.
On apprend un tout petit peu plus tard dans ce premier texte que son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage, puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent, un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous des haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue, et finalement fut chassée pour un vol de 30 sols qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Bref, tout le monde la rejette, elle ne réussit rien. Et pourtant, c'est cette trajectoire-là à laquelle Flaubert va s'attacher et voir comment elle va tisser des liens difficiles, mais quand même réels, avec bien sa maîtresse, Madame Aubin, les enfants de cette maîtresse, son neveu Victor, et enfin, un perroquet.
Mais il faut voir comment le texte est écrit. Il est écrit aussi d'une façon... Alors, Flaubert se défend d'être ironique dans la lettre qu'on a lue. C'est pas exactement de l'ironie, mais il y a dans ce texte des choses qui relèvent de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une histoire sociale et au fond une sorte de destin individuel qui va nous émouvoir. Et puis aussi des niveaux d'incohérence un peu surréalistes qui sont à peine perceptibles à la lecture, mais qui sont très importantes en réalité dans l'imaginaire qu'on se forme du texte en le lisant. Par exemple, je relis le passage que vous avez lu. Elle avait eu, comme une autre, son histoire d'amour, alinéa. Son père, un maçon, s'était tué en tombant dans l'échafaudage. C'est très bizarre. Vous imaginez le lien?
Comme une ellipse, ouais.
Ellipse totale. Plutôt, il va se passer tout un paragraphe où on lui raconte sa vie avant qu'on en arrive à l'histoire du premier amoureux de Félicité. Dans d'autres moments, par exemple, on va la voir courant sur le port pour essayer de récupérer un dernier moment avec son neveu, Victor.
Qui part sur
et qu'est-ce qu'elle voit? Des chevaux dans le ciel. Et c'est un trépan qui est en train de monter un cheval dans le ciel. Et on est au cinéma, là. On est en train de voir quelque chose comme une hallucination. Et je crois que c'est aussi une constante dans ce texte de laisser des places à des échappées de folie, à des échappées de visions un peu hallucinées, qui sont peut-être aussi sa façon à elle de ne pas comprendre. Peut-être dans un rapport de sensibilité à l'incompréhensible du monde.
Le perroquet, lui, pourtant, est bien réel. Loulou arrive un jour, il est donné à sa maîtresse, qui ne sait pas trop quoi en faire, donc c'est Félicité qui en hérite. Elle a déjà été conduite donc, par son premier amour, Théodore, il y a bien longtemps. Elle s'occupe de Virginie et Paul, les deux enfants, Paul et Virginie, le clin d'œil est assez clair, les deux enfants, mais Virginie va partir en pension, donc elle ne peut plus s'occuper d'elle. Son neveu Victor, du coup, elle reporte toute son affection sur son neveu Victor qui part en bateau. Paul aussi s'en va, il ne reste plus personne, sauf ce perroquet qui est là. Et là, c'est à la fois tout à fait réel, tout à fait réaliste, et en même temps, c'est le perroquet qui va ouvrir et introduire dans le récit une dimension quasiment fantastique.
Oui, et c'était d'ailleurs, en fait, dans le premier projet qu'on connaît de Flaubert, c'est son premier scénario pour le conte, c'était le centre du récit. Tout tournait autour de cette idée. Ça devient, dans la version finale, c'est intéressant de voir l'évolution de la jeunesse de l'œuvre, ça devient le final de l'œuvre. Malgré tout, le loulou, le perroquet, qui va avoir une sorte d'importance décisive sur la fin du récit, n'arrive qu'à la quatrième partie. Il était au centre de tout le récit pour la première hypothèse que Flaubert s'était formulée pour le récit. Et je crois que ça tient beaucoup au fait qu'il, écoutant Sand, il est passé de l'idée de faire une sorte de fable sur le perroquet paraclet, sur le Saint-Esprit et l'hallucination d'une pauvre vieille qui voit le Saint-Esprit, à quelque chose comme l'exploration d'un destin. Enfin, vraiment, on accompagne toute la vie de Félicité, ses humiliations, ses tristesses, ses souffrances, pour en arriver à comprendre ce qu'est sa relation avec cet animal, cette espèce de relation à la fois fétichiste, on peut dire, et puis un peu délirant, parce que du perroquet vivant puis mort, puis empaillé, elle va faire progressivement l'image même de Dieu.
C'est du Saint-Esprit.
Du Saint-Esprit, c'est-à-dire de Dieu. Alors, je pense que c'est une... Là aussi, c'est une sorte d'histoire un petit peu cryptée par plein de points. À la fois, on est dans la même écriture ultra précise du sentiment, et on est aussi dans une réflexion sur ce que c'est que le culte des images, sur ce que c'est que le rapport à l'animalité et sur ce que c'est peut-être la croyance.
Et ben voilà, et justement sur le rapport à l'animalité, on se demandait si est-ce que un cœur simple est un cœur bête, hein, mais bête ça dépend comment on l'entend, parce qu'il y a le double sens bête de bêtise et bête de animal. Écoutez cet extrait. Alors on a un peu avancé là dans le conte. Félicité prend froid, elle est malade et justement sa maîtresse lui demande si finalement elle n'est pas tout simplement bête. Et écoutez le rapport que Félicité développe avec ce perroquet, avec la voix du perroquet, car de tous les animaux, le perroquet est le seul qui parle directement. Écoutez ce texte interprété par Anne Brissier.
Par suite d'un refroidissement, il vint à Félicité une angine. Peu de temps après, un mal d'oreille. 3 ans plus tard, elle était sourde. Et elle parlait très haut, même à l'église. Bien que ses péchés auraient pu sans déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse, monsieur le curé jugea convenable de ne plus recevoir sa confession que dans la sacristie. Des bourdonnements illusoires achevaient de la troubler. Souvent, sa maîtresse lui disait « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» Elle répliquait « Oui, madame !» en cherchant quelque chose autour d'elle. le petit cercle de ses idées se rétrécit encore. Et le carillon des cloches, le mugissement des bœufs n'existait plus. Tous les êtres fonctionnaient avec le silence des fantômes. Un seul bruit arrivait maintenant à ses oreilles. La voix du perroquet. Comme pour la distraire, il reproduisait le tic-tac du tourne-broche, l'appel aigu d'un vendeur de poissons, la scie du menuisier qui logeait en face. Et au coup de la sonnette, imitait Madame Aubin. « Félicité, la porte, la porte !» Ils avaient des dialogues, lui, débitant à satiété les trois phrases de son répertoire, et elle, y répondant par des mots sans plus de suite, mais où son cœur s'épanchait. Loulou, dans son isolement, était presque un fils, un amoureux. Il escaladait ses doigts, mordillait ses lèvres, se cramponnait à son fichu. Et comme elle penchait son front en branlant la tête à la manière des nourrices, les grandes ailes du bonnet et les ailes de l'oiseau frémissaient ensemble.
Et oui, cet accouplement entre Félicité et le perroquet Loulou, c'est sur France Culture que vous l'écoutez, le chemin de la philosophie, les 10h25. On parle du cœur cette semaine et d'un cœur simple de Flaubert aujourd'hui en compagnie de Pierre-Marc de Biasi. Il est quand même très fort, hein, Flaubert, d'arriver à nous faire croire à cette histoire d'amour entre Félicité malade qui devient sourde et Loulou le perroquet qui lui mordit le fichu.
Bah, il avait essayé déjà de nous faire croire à l'amour de Salammbô avec un python géant quand même. Hein. Il y a des scènes érotiques. La zoophilie imaginaire de Flaubert est constante, elle est dans tous ses textes. Mais là, véritablement, je crois que ce qui se construit, c'est le scénario de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de manque d'amour qui cherche un objet pour s'incarner et qui finit par trouver, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, cet animal, quoi. Et qui raconte une histoire, au fond, extraordinairement universel. Combien de gens aujourd'hui seuls vivent avec un animal pour seul objet d'amour? Mais plein. Hein, cette histoire, elle a quelque chose d'un petit peu éternel aussi. Mais elle a quelque chose de délirant, et d'autant plus délirant que, à travers ce rapport presque érotique entre Loulou et Félicité, ce qui va se dire progressivement, c'est le seul rapport possible pour Félicité à l'idée de Dieu, à l'idée de la transcendance.
Alors, avant d'en venir à Dieu, parce qu'effectivement, il va arriver de manière assez flagrante et inévitable d'ailleurs, il est intéressant de constater que dans le texte qu'on a entendu, c'est à mesure que Félicité devient malade, devient sourde, s'abêtit en un sens, il est dit le petit cercle de ses idées se rétrécit encore, ce qui est une phrase géniale. Eh bien, à mesure qu'elle s'abêtit, elle devient de plus en plus proche de la bête qu'est le perroquet. Et c'est pour ça quand sa maîtresse lui dit « Mon Dieu, comme vous êtes bête !» et qu'elle réplique « Oui, madame !» C'est comme si elle prenait le mot « bête » au sens premier du terme.
Mais cette double signification de bête que vous signaliez, en fait, traverse toute l'histoire. Hein, si elle résiste aux avances de Théodore quand elle est jeune fille, c'est pas par refus de la sexualité. Le texte nous le dit. Les bêtes l'avaient instruite. Elle sait.
Elle était moins naïve
que
d'autres de son âge parce qu'ayant grandi avec les bêtes, elle savait ce que c'était que la sexualité.
Voilà. Bref, elle a eu un rapport avec les animaux qui ont fait d'elle une sorte d'équivalent. Et en même temps, elle est bête au sens bourgeois du terme, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas bien les mots, les usages. Et elle a une sorte de rudesse dans son être qui fait que sa maîtresse lui dit... Rapport de classe, évidemment, aussi. Qu'est-ce que vous pouvez être bête, ma pauvre Félicité ? Oui, madame. Bon. Mais dans l'un et l'autre cas, ce qui est assez fascinant, c'est que elle n'est pas détruite par cela dans le récit. Au contraire, elle est exaucée. C'est-à-dire que le fait de ce rapport de proximité aux animaux, le fait de cette... d'une certaine façon, de cette incapacité à penser, ne fait pas d'elle un personnage négatif. Au contraire. d'une certaine façon, elle pense comme elle peut, elle pense autrement, mais elle ne pense pas bassement. Elle pense comme le peuple. Voilà. Ce que nous dit Flaubert, c'est d'accord, c'est pas complètement humain, c'est aussi du côté de l'animalité. D'accord, c'est fait aussi avec une certaine dose d'ignorance et un rapport au langage qui est encore non construit. Mais par exemple, par rapport à beaucoup d'autres personnages du récit qui sont obsédés par l'argent, le profit, tous ceux qui vont tomber dans le récit et qui vont mourir, ceux notamment qui se moquent d'elle, comme celui à qui elle demande sur la carte de lui montrer la maison de son Victor, et qui se moque d'elle parce que sur une carte on ne peut pas voir la maison de quelqu'un, enfin, sauf que Google Maps nous permettra aujourd'hui de lui donner ça. Eh bien, ce personnage qui se moque de Félicité, qui de cette façon la tourne en dérision, ça va lui coûter cher. Il va être convaincu de corruption, il va mourir.
De toute façon, tout le monde meurt dans ce texte.
De toute façon, tout le monde meurt. Et d'une certaine façon, Félicité, elle, une traversée qui se termine sur, vous disiez, le cercle de ces idées qui se rétrécit, au point qu'elle devient aveugle aussi. Elle était sourde, elle perd la vision. Donc, elle n'est plus qu'une sorte d'animal palpitant qui n'a plus de... pratiquement plus d'autres sens que l'olfaction, que le sentir, et qui va avoir un dernier rapport à la réalité, qui est celui de l'odeur d'encens, et son imaginaire, c'est ce qu'elle voit dans son esprit, le bleu du ciel dans lequel son perroquet s'élève comme le Saint-Esprit.
Alors pourquoi un perroquet ?
Évidemment, pour toutes sortes de raisons, parce que paraclet, perroquet. Parce que c'est un jeu de mots sur le Saint-Esprit, parce que c'est le seul animal qui parle. Et elle dit bien, c'est sûrement pas une colombe, parce que Dieu n'est pas assez bête pour s'incarner dans un animal qui ne sait pas parler, tandis que mon perroquet, lui, il parle. Et le perroquet parle comme Flaubert pense que nous parlons, c'est-à-dire par stéréotype, par répétition, par une sorte d'usage... de la parole où nous croyons briller, mais où en fait le langage nous traverse.
Hein. Donc c'est l'humanité entière qui s'exprime à travers le perroquet.
Absolument. C'est un rapport à la langue qui est la répétition, le cliché, le stéréotype, l'idée reçue. Au fond, qu'est-ce que nous racontent les autres personnages, les autres vies que la vie de Félicité ? C'est la banalité, la répétition d'un langage qui prédit et prévoit toute destinée en termes de déjà vu, de déjà construit, de stéréotypes. Donc c'est vraiment un texte traversé par une interrogation profonde sur ce que c'est qu'écrire, ce que c'est que parler, ce que c'est que se souvenir, ce que c'est que vivre au fond, à travers les mots, au risque de la répétition. De l'image toute faite, de l'idée reçue.
Et Félicité est le seul personnage qui va avoir accès à un au-delà de cette répétition, de cet ordinaire. Cet au-delà qui est incarné par le perroquet, c'est-à-dire, à la fin, les deux se rencontrent, Dieu, le Saint-Esprit. Eh bien, elle peut y accéder grâce à la jeune fille dont elle s'occupe, Virginie, qui... étant assez âgée pour aller suivre des cours de religion, eh bien elle va au catéchisme. Félicité l'accompagne au catéchisme, et là, elle découvre quelque chose dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Flaubert écrit ceci, « Elle pleura en écoutant la passion. Pourquoi l'avait-il crucifié, lui qui chérissait les enfants, nourrissait les foules, guérissait les aveugles, et avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres sur le fumier d'une étable ?» Les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile, se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiées. Et elle aima plus tendrement les agneaux par amour de l'agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, car il n'était pas seulement oiseau, mais encore un feu, et d'autrefois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit au bord des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses. Et elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Alors là aussi, c'est Pierre-Marc de Biasi que vous entendez tous, chers auditeurs, qui est avec nous pour parler de Un cœur simple sur France Culture, les chemins de la philosophie. Alors là aussi, je disais dans ce texte, le cours de Félicité au catéchisme, en quelques lignes, c'est absolument bouleversant. On a à la fois un peu envie de se moquer d'elle, hein. Flaubert se défend d'être ironique, mais enfin quand même, elle se demande, mais pourquoi avait-il crucifié Jésus puisqu'il était si sympa avec les enfants? Ce qui est une forme de naïveté qui prête forcément à sourire. Elle imagine Dieu avec ce qu'elle peut imaginer. Et la dernière phrase est sublime. Elle demeurait dans une adoration, jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Félicité au catéchisme à l'église jouit. Non seulement elle jouit, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais elle jouit de la fraîcheur des murs.
Et d'ailleurs, elle manquera de s'évanouir au moment où la petite Virginie, recevant la communion, elle-même ressent de l'intérieur l'émotion complètement, quoi. Ben, elle a un rapport à la religion qui est un rapport érotique, qui est un rapport véritablement physique, quoi. Et elle, c'est la foi du charbonnier. C'est la foi directe et absolue qui fait que, quelle que soit la bêtise de cette croyance, Flaubert est complètement agnostique et même anticlérical très violemment, hein. Quelle que soit pour un intellectuel, le caractère absurde de cette croyance, c'est cette foi, elle a la force, la beauté et la puissance de la réalité, quoi. Elle lui colle à la peau. Et ce n'est même pas critiquable. C'est de l'ordre du de l'être.
Et comme vous dites, ça colle à la réalité, c'est que la croyance, finalement, en ce Dieu, lui, la rend disponible et ouverte là où elle est, au moment où elle vit, c'est-à-dire, mais y compris la fraîcheur des murs et la tranquillité de l'église, qui est, ce qu'aucun des autres personnages ne peut vivre en réalité. Ouais. Donc c'est l'existence, l'imagination d'un au-delà qui la rend ouverte et présente à ce monde.
Absolument. Il y a une sorte de sensualisme chez Félicité, naturel, quoi, qui s'accorde avec ce qu'elle est capable de créer comme métaphysique, qui va être une sorte de mélange de ses expériences et de sa mémoire. Mais d'une certaine façon, certains passages du texte résument son itinéraire. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Elle est réellement elle-même.
C'est le Christ, ça.
Le Christ version féminine. Faut d'ailleurs souligner, il y a un truc qui est pas peut-être suffisamment clair. C'est le caractère un peu féministe de ce texte. C'est un texte d'ailleurs. Il a été effectivement porté à l'écran par des réalisatrices de cette cause, mais c'est un texte où le statut de femme et de femme pauvre est vraiment au centre du travail d'écriture de Flaubert. C'est un peu exceptionnel. Enfin, il y a Sand, évidemment, qui...
Mais quelle différence avec Madame Bovary, par exemple?
Madame Bovary, elle est inscrite dans un rapport à l'érotisme qui est l'exploration par Flaubert de ce que c'est que la maladie d'amour, quoi, c'est-à-dire vouloir sentir l'odeur du citron sous un pommier, voilà, essayer de vivre l'impossible ou l'inassouvissable de l'amour. Chez Félicité, on est véritablement dans l'exploration du plus simple, du simple, de la relation au réel, quoi.
Elle y accède quand Madame Bovary passe son temps à vouloir y accéder, oui, mais n'y arrive jamais.
Oui, elle donne effectivement son amour et elle reçoit peu, mais elle est dans un rapport de, disons, sous une forme assez peu érotique, il faut le dire quand même, mais sous une forme de générosité complète, elle est un trajet réussi. C'est une sainte, De toute façon, on pourra le dire, quoi.
D'ailleurs, c'est la fin du texte donne à entendre cette sanctification de Félicité. On va écouter ce texte lu par Anne Brissier et puis ensuite la mort d'Emma Bovary pour comparer les deux façons qu'ont ces deux personnages assez similaires de mourir et voir comment Flaubert se positionne par rapport à l'une et à l'autre.
Des guirlandes vertes pendaient sur l'autel, ornées d'un falbala en point d'Angleterre. Il y avait au milieu un petit cadre enfermant des reliques, deux orangers dans les angles, et tout le long, des flambeaux d'argent et des vases en porcelaine, d'où s'élançaient des tournesols, des lys, des pivoines, des digitales, des touffes d'hortensia. Ce monceau de couleurs éclatantes descendait obliquement, du premier étage jusqu'au tapis, se prolongeant sur les pavés. Et des choses rares tiraient les yeux. Un sucrier de vermeil avait une couronne de violette. Des pans de loques en pierre d'Alençon brillaient sur de la mousse. Deux écrans chinois montraient leur paysage. Loulou, caché sous des roses, ne laissait voir que son front bleu, pareil à une plaque de lapis. Les fabriciens, les chantres, les enfants se rangèrent sur les trois côtés de la cour. Le prêtre gravit lentement les marches et posa sur la dentelle son grand soleil d'or qui rayonnait. Tous s'agenouillèrent. Il se fit un grand silence et les encensoirs, allant à pleine volée, glissaient sur leurs chaînettes. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança les narines en la humant avec une sensualité mystique, puis ferma les paupières. Ses lèvres souriaient. Les mouvements de son cœur se ralentirent un à un, plus vague chaque fois, plus doux, comme une fontaine s'épuise, comme un écho disparaît. Et quand elle exhala son dernier souffle, elle crut voir, dans les cieux entr'ouverts, un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête.
Sa chair allégée ne pesait plus. Une autre vie commençait. Il lui sembla que son être, montant vers Dieu, allait s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite les draps du lit, le prêtre retira du Saint-Ciboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement autour d'elle en façon de nuée et les rayons des deux cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir en un ciel d'azur sur un trône d'or, au milieu des saintes dans des palmes vertes, Dieu le Père tout éclatant de majesté et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flammes pour l'emporter dans leurs bras. Pierre-Marc de Biasi, quand on entend la mort de Félicité, puis la mort d'Emma Bovary, ces deux morts ascensionnelles, la ressemblance, pour le coup, là, est très très forte. C'est qu'on n'est pas dans l'ironie du tout, dans le cas de Madame Bovary.
Ah non, ni dans l'autre.
Ni dans l'un, ni dans l'autre. Et il y a cette espèce de description physique du moment, du dernier souffle, en fait, dans un cas comme dans l'autre. Parce que dans un cas, c'est les paupières, l'autre, c'est
le souffle. Vous avez remarqué, l'une, Emma croit entendre, Léa, ça, et l'autre croit voir.
Voir, exactement.
Ouais. C'est deux morts qui sont très proches, qui sont, sauf que celle d'Emma va être celle de l'expiation et de la souffrance, celle de Félicité, celle au fond de d'une sorte d'ascension.
Mais les deux voient Dieu.
Et les deux sont aussi dans ces vapeurs d'encens et dans ces vapeurs d'azur. Voyez, et c'est quoi cet azur? Bah, c'est évidemment celui aussi dans lequel Saint-Julien va monter à la fin de Saint-Julien. C'est le ciel, quoi. Mais pour Flaubert, c'est le bleu de son papier. Il écrit sur un papier bleu azur, quoi. On est vraiment dans l'écriture. Et ce que nous raconte la fin d'un cœur simple, c'est au fond le début de toute croyance. Ce qui fait le miracle, ce qui fait la croyance, c'est cet oiseau empaillé à côté de l'estampe sur le mur, qui vont se transformer en vrai oiseau qui vole et qui accompagne la clôture d'un destin. C'est... Non, c'est... Il y a un témoin hein, à la mort de Félicité. Elle n'est pas toute seule. Mmh. Il y a la Simone. Simone. Elle n'est pas toute seule et c'est un des seuls personnages à ne pas être tout seul. Son amour, on le lui rend quand même. Quelqu'un lui tient la main. Et Simone, pauvre aussi, est là parce qu'elle se dit « Un jour, ça m'arrivera ». Il y a quelque chose de très, je trouve de très émouvant et de très troublant même dans l'exploration que Flaubert fait de ce que c'est que vivre pauvre et mourir pauvre.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parliez de Catherine Leroux avant, dans Madame Bovary.
Oui, oui,
parce que aussi le double de Félicité, cette Catherine Leroux qui est décrite
de
comme
préfiguration de Félicité. Vous savez, celle qui se trouve au commissaire agricole et qui est physiquement le portrait même de l'asservissement, de la pauvreté. Enfin, c'est une servante qui a été écrasée par la vie et vous savez, la formule, hein, si se tenait devant ces bourgeoises épanouies, c'est le demi-siècle de servitude. Eh bien, si on regarde la façon dont Catherine Leroux, qui est une sorte de préfiguration de Félicité, est habillée, comment on nous la présente, ses pauvres vêtements. Elle avait au pied de grosses galoches de bois et le long des hanches un grand tablier bleu, son visage maigre entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme de rainette flétrie, et des manches de sa camisole rouge dépassaient deux longues mains à articulations noueuses, etc. Le tablier bleu, le béguin blanc, la camisole rouge.
C'est le drapeau français.
C'est Catherine Leroux, c'est la France.
C'est la France.
C'est la France pauvre, chrétienne, et qui a été asservie depuis des siècles, et qui entre régulièrement en révolution. Mais qui, en l'espèce, est symbolisée par une femme chrétienne, catholique, qui croit, dur comme fer, au Saint-Esprit.
Vous en diriez autant de Félicité, du coup ?
Ah oui, Félicité.
Le perroquet, c'est l'humanité, Félicité, c'est la France.
Félicité, on nous parle de sa camisole rouge, quelque part, on lui suppose le tablier bleu et le béguin blanc, c'est la France.
Qui du coup donne une dimension beaucoup plus politique à ce texte.
Oui, je crois que le symbole de cette vie strictement individuelle à l'intérieur de quoi on plonge, c'est en vérité toute une collectivité, c'est toute une histoire. Et il n'y a pas de métaphysique sans histoire. Voilà.
Il n'y a pas de simplicité non plus.
Il n'y a pas de simplicité non plus sans histoire, oui.
Il y en a qui ont le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Il y en a qui ont le cœur si large qu'on n'en voit que la moitié. Il y en a qui ont le cœur si frêle qu'on le briserait du doigt. Il y en a qui ont le cœur trop frêle pour vivre comme toi et moi. Ils ont plein de fleurs dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris. Il y en a qui ont.
Un grand merci à vous, Pierre-Marc de Biasi, d'être venu me parler d'un cœur simple aujourd'hui.
Merci.
Je renvoie à l'édition que vous proposez des trois contes de Flaubert dans lesquels on trouve un cœur simple. Donc, En Garnier Flammarion, au livre de poche. Voilà, deux éditions possibles pour ce texte. Lisez-le, chers auditeurs. Il fait une cinquantaine de pages et j'espère qu'on a pu vous en montrer la beauté et la capacité d'interprétation sans fin. Parce que finalement, entre la piste religieuse, politique et purement littéraire, faites votre choix.
En voyage, il y en a qui ont le cœur trop vaste pour se priver de mirages. Sont pleines fleurs dans les yeux à fleurs de peur de manquer l'heure qui conduit à Paris.
Et c'est avec les cœurs tendres de Jacques Brel que nous nous quittons à 10h48 sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver les deux minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître. Et aujourd'hui, c'est un livre sur les paradoxes politiques.
Oui, je suis ravie de parler aujourd'hui d'un ouvrage paru dans l'excellente collection Le Bien Commun aux éditions Michalon et de parler donc aujourd'hui de cet ouvrage d'Olivier Abel, Les paradoxes politique, mais consacré à Pierre Bel. Pierre Bel, que l'on peut tout aussi bien prononcer comme le précise Olivier Abel, soit à la parisienne Pierre Bel, soit façon Languedoc Pierre Bail, était donc un philosophe à qui l'on doit une revue, Les Nouvelles de la République des Lettres, un fascinant dictionnaire historique et critique réédité quand même une dizaine de fois, ou encore un commentaire philosophique sur la tolérance, et puis enfin un avis aux réfugiés. Né en 1647, mort en 1706, son tort est, je cite, « devenir après les uns et avant les autres ». Entendez, après Descartes, Machiavel et Hobbes, et avant les philosophes des Lumières. Ce qui explique qu'il soit peut-être aujourd'hui peu connu et étudié, ou pour ceux qui le connaissaient déjà, qu'il soit si peu identifiable. Car de fait, comme le rappelle Olivier Abel, sa pensée forme une énigme et elle a suscité de nombreux conflits d'interprétation. Libertin athée pour certains, protestant exilé à Rotterdam ou encore sceptique pour d'autres, il a lui-même écrit sous différents noms et masques et tout autant plaidé pour la tolérance que fustigé les séditions religieuses. Alors, qui était donc Pierre Bel ? Question d'autant plus passionnante pour un auteur dont le propos sur le rapport entre théologie et politique est tout à fait actuel, et d'autant plus passionnante surtout pour un auteur attaché à la sincérité. Comment donc tenir ensemble tous ces paradoxes ? Comment les tenir en une seule personne et même en soi ? Eh bien, c'est ici en fait que se tient tout l'enjeu de sa pensée. Dans ses différences et ses différends, avec un D. Dans le fait même de prôner une manière de vivre dans ses paradoxes, son rapport au texte biblique en témoigne, son rapport aux pressions religieuses aussi. Quand la controverse sévit, rien ne sert de trouver une seule manière de lire ou de vouloir s'en extraire. Il faut au contraire porter et dire la pluralité et le conflit.
Eh bien, c'est dit Géraldine. Merci à vous. Les paradoxes politiques donc.
Consacré à Pierre Bel et c'est par Olivier Abel aux éditions Michel.
Merci Géraldine, merci à tous. Les chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour les chemins du vendredi où je recevrai Emmanuel Faye pour son livre Arendt et Heidegger, extermination nazie et destruction de la pensée. Un contrepoint à la série sur Être étant d'Heidegger que nous avons proposé le mois dernier. Merci à l'équipe des chemins de la philosophie, c'était Juliette Delperro à la prise de son. Milena Heilig à la réalisation, Anne Brissier à la lecture des textes, et puis l'équipe, c'est toujours et encore Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Nicolas Bouteloup, Livia Garrigue et Marianne Chassor. Nous sommes partenaires de Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci un dossier intitulé « Quelle part d'enfance gardons-nous ?» Un magazine en kiosque, donc actuellement, n'hésitez pas à vous le procurer. Et à réécouter cette émission sur Un cœur simple de Flaubert ainsi que toutes celles consacrées au cœur de cette semaine. Des émissions sont réécoutables en ligne sur le site des chemins de la philosophie, mais aussi téléchargeables, podcastables pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Mais à 11h sur France Culture, comme tous les jours, vous avez rendez-vous avec Florian Delarme. Bonjour Florian.
Bonjour Adèle.
Bon, est-ce que vous parlez de Stevie Wonder cette semaine ?
Eh non, 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 on va encore
vous parlez de superstition ?
Oui,
c'est quand même
bien,
dommage.
On va parler de sorcellerie, d'imaginaire sorcellaire.
Bon, c'est sympa aussi.
Oui, c'est autre chose.
À demain, Florian.
À demain.